Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La messe de ce troisième dimanche après la Pentecôte chante la miséricorde divine à l'égard des hommes. Miséricorde qui nous a été manifestée par le Sacré-Cœur de Jésus, dont la dévotion est le résumé et comme l'essentiel du christianisme. Ce divin cœur, dit Sainte Marguerite Marie, me fut présenté dans un trône de flamme, plus rayonnant qu'un soleil et transparent comme un cristal, avec cette plaie adorable. Il était environné d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres que nos péchés lui faisaient et une croix au-dessus qui signifiait que dès les premiers instants de l'incarnation, la croix y fut plantée. Cette vision fut représentée par une image qui en est le labarum et nous exprime ce qu'est la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Vous avez cette image là, c'est l'image qui est diffusée par le monastère de Paray-le-Monial. Voyons d'abord cet amour de Jésus, du Sacré-Cœur. Il est signifié par la flamme qui s'échappe du cœur avec la croix qui se trouve dans ses flammes et la blessure faite par la lance. L'amour du Sacré-Cœur est triple. Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu. En tant que Dieu, son amour est divin, incréé, commun aux trois personnes divines. L'amour de Dieu, dit la Sainte Écriture, est un feu dévorant. C'est pourquoi on le représente souvent par une flamme. C'est cet amour divin, incréé, représenté par les flammes d'amour sur l'image du Sacré-Cœur, qui est à l'origine de toute l'œuvre de la rédemption. Cet amour divin incréé embrase le cœur de chair de notre Seigneur Jésus-Christ, siège des affections de son âme très sainte, et allume en lui un amour humain d'une ardeur incompréhensible qui se dirige d'abord vers son Père pour redescendre ensuite vers nous les hommes. En tant qu'homme, Jésus-Christ a donc un amour humain qui, comme la charité, est double. Il comprend l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Jésus pour son Père constitue la vie même de son divin cœur. Il est la raison d'être de son amour pour nous. C'est parce qu'il aime son Père que Jésus nous aime et il va se sacrifier totalement pour notre salut. On peut dire qu'avant l'incarnation, le Verbe de Dieu était comme impatient, d'une impatience d'amour, de s'incarner. Certes, Dieu parlait aux hommes avant l'incarnation dans l'Ancien Testament par ses prophètes. Mais il avait hâte de leur parler en personne, de sa propre bouche. Cette impatience d'amour est exprimée ainsi dans les Proverbes. « Ô enfants des hommes, c'est à vous que ma voix crie depuis si longtemps. C'est vous que je désire, c'est vous que je cherche, c'est vous que je réclame. Écoutez, venez à moi, je veux vous rendre heureux. » Ce désir exprimé par l'amour du Verbe ne se contente pas de ce désir. Il va se traduire par des actes. Nous allons prendre les trois principaux actes par lesquels Jésus-Christ nous a prouvé son amour. Le premier, c'est l'incarnation. L'incarnation allait permettre de nous rendre sensibles l'amour divin infini. C'est ce que Dieu a annoncé par ses paroles du prophète Osée. « Je les attirerai par des liens humains, dit le Seigneur. Je les enlacerai dans les chaînes d'amour. » L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est le chef-d'œuvre de la création. Jésus est homme parfait. Saint Jean, témoin oculaire comme beaucoup de ses contemporains, a exprimé cela par ces mots. « Nous avons contemplé sa gloire, Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Le visage de Jésus était beau et majestueux. Il était si doux et respectable tout ensemble que ceux qui le connaissaient ne pouvaient s'empêcher de l'aimer. Quant à ses paroles, ce sont des paroles divines exprimées par une bouche humaine. Même ses ennemis reconnaissaient que jamais homme n'avait parlé comme cet homme, avec tant de douceur et de grâce et une telle sagesse. Quant à sa bonté, partout où il allait, il guérissait les malades, délivrait les possédés, et quand il y avait nécessité, il nourrissait les foules. Il consolait les affligés en ressuscitant les morts, convertissait les pécheurs, si bien que les foules le suivaient de plus en plus nombreux et voulaient le faire roi. Cet amour envers les hommes manifesté pendant sa vie publique est déjà bien grand. Mais ce n'est qu'avec la rédemption, par la mort sur la croix, que cet amour divin va montrer toute sa sublimité. Notre Seigneur avait enseigné dans sa vie publique qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et qu'il attirerait tout à lui quand il serait élevé de terre, c'est-à-dire cloué à la croix. Cet amour divin qui a poussé le Verbe à s'incarner va le faire se livrer volontairement aux souffrances de sa passion et à la mort sur la croix. Son cœur, ouvert par la lance du soldat, sera comme la signature, le témoignage éloquent, proclamant à la face du monde « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et à se consumer pour leur témoigner son amour. » La croix au milieu des flammes, que vous pouvez voir sur l'image, signifie que la croix est présente dès l'incarnation. Jésus est venu payer entièrement la dette de la justice divine, la dette qu'on devait à la justice divine, vaincre la mort, conséquence du péché, et nous délivrer de la domination du démon auquel nous étions assujettis à cause de nos péchés. C'est par le sacrifice parfait de l'immolation sur la croix qu'il va remporter l'éclatante victoire. Dès son incarnation, Jésus porte dans son cœur cet état de victime. Il est venu pour cela, c'est son heure, il le dit souvent. Donc il va porter, dès son incarnation, quand il est encore petit bébé, cet état de victime comme une croix invisible, jusqu'à ce que la réalisation se soit faite sur la croix. Et sur la croix, c'est dans son Sacré-Cœur que s'opère le sacrifice le plus sublime. C'est dans le Sacré-Cœur de Jésus, dit Bossuet, que se fit la séparation de son âme d'avec son corps. C'est en ce sanctuaire et sur cet autel que le sacrifice de la plus belle de toutes les vies, par la plus précieuse de toutes les morts, se consomma pour la rédemption du genre humain tout entier. Et les fruits de ce sacrifice s'écoulent par la plaie du cœur, faite par la lance du soldat. Les saints pères y ont vu les sacrements, principalement le baptême et l'Eucharistie. Une mère qui aime ses enfants ne se contente pas de leur donner la vie, mais elle va les nourrir, les éduquer jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes. C'est ce que fait notre Seigneur. Il nous donne la vie surnaturelle par le saint baptême, et cette vie, il va la développer en nous, nous nourrissant de son corps sacré. C'est pour cela qu'il a institué la Sainte Eucharistie. De même qu'une maman nourrit l'enfant qui est dans son sein de sa substance, de même, notre Seigneur Jésus-Christ va nous nourrir du pain transsubstantié, c'est-à-dire il est contenu tout entier dans les apparences du pain. La Sainte Eucharistie contient notre Seigneur Jésus-Christ, pain de vie, tout entier, descendu du ciel sur la terre pour nous conduire au ciel. Le premier effet de cette nourriture sacrée est de nous unir à Jésus-Christ. Ce don qu'il nous fait de tout lui-même, par amour, va nous transformer en lui. Que se passe-t-il en effet quand nous communions après nous être préparés convenablement ? Son corps ressuscité se mêle à notre corps, son sang avec notre sang. Son âme se joint à notre âme, nous rendant semblables à notre Seigneur. Puisque notre corps participe aux qualités de son corps et notre âme aux grâces de la sienne, selon qu'il lui plaît de se communiquer à nous. Voici plus en détail les effets produits. Son imagination règle la nôtre, son intelligence éclaire la nôtre, sa volonté échauffe et fortifie la nôtre, son désir modère le nôtre et y éteint le feu de la concupiscence. Ses sens purifient les nôtres. Il arrache nos mauvaises habitudes et dispose tout de telle sorte que la pratique de la vertu nous devienne aisée. Chère Constance, vous êtes bien préparée pour votre première communion. Vous allez pour la première fois recevoir dans votre cœur ce pain de vie qui est descendu pour nous conduire au ciel. Il va accomplir en vous tous ces bienfaits que nous venons de décrire. C'est-à-dire qu'il va vous sanctifier sans que vous remarquiez quelque chose. Puisque dans ce sacrement d'amour, Jésus se donne avec tout son cœur, alors donnez-lui tout votre cœur en lui demandant qu'il le rende semblable au sien. Par ces trois bienfaits, incarnation, rédemption, Eucharistie, Jésus nous a enlacés dans les chaînes de son amour. Mais l'amour suppose la liberté. Jésus ne peut pas nous sauver sans nous. Que devons-nous donc faire pour l'aimer en retour? Dans l'image du Sacré-Cœur, la croix est enracinée dans le cœur pour montrer qu'elle ne fait qu'un avec l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut donc aimer vraiment en retour le cœur de Jésus sans aimer la croix. C'est ce que notre Seigneur nous a enseigné avant de remonter au ciel. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Jésus veut qu'on porte notre croix avec lui, en sa compagnie, à son exemple, dans les mêmes sentiments que lui, c'est-à-dire avec amour et par amour. En effet, la générosité de l'amour éclate dans la grandeur du sacrifice. Tout amour vrai a la croix pour signe. Si bien souvent nous traînons nos croix, c'est parce que nous les portons seuls, livrés à notre faiblesse, aigris par notre égoïsme, découragés par notre manque de foi. Ne séparons donc pas notre croix du divin cœur. Le sacrifice est l'unique antidote efficace contre l'égoïsme. L'égoïsme, c'est l'arme la plus redoutable de l'armée de Satan. Cette armée tend à bâtir la cité de Satan, qui s'oppose à la cité de Dieu. Comment cela? En poussant les hommes à l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui au niveau individuel et au niveau des sociétés. Cette arme est double, l'égoïsme de l'esprit et l'égoïsme du cœur. L'égoïsme de l'esprit, c'est l'homme qui se fie à ses propres pensées, ses propres conceptions, ses propres pensées religieuses, et donc il va établir sa vie sur ses principes. Il ne se réfère à rien d'autre qu'à lui-même. Chacun croit ce qui lui plaît le mieux et bâtit ainsi sa vie. L'égoïsme du cœur, c'est céder, suivre les trois concupiscences. Concupiscence de la chair, concupiscence des biens terrestres et orgueil de la vie. La première arme, l'égoïsme de l'esprit, est détruite par la soumission de la foi à l'autorité divine de l'Église. L'autorité divine de l'Église est notre règle qui nous dit la vérité sur ce que nous devons croire, à la fois au niveau surnaturel et à la fois au niveau de l'organisation des sociétés et au niveau moral pour la conduite de notre vie. Et cette autorité de l'Église, eh bien, elle nous montre le Sacré-Cœur comme un nouveau labarum résumé du christianisme. Le Sacré-Cœur doit régner en nous-mêmes, dans nos familles, dans les institutions. C'est lui qui doit être la règle parce qu'il est la vérité. Et c'est ainsi que se construira la cité de Dieu. La deuxième arme, l'égoïsme du cœur, est détruite par la vraie dévotion au Sacré-Cœur qui nous pousse à faire pénitence, à participer à notre propre rédemption en détruisant en nous la triple concupiscence. Et ceci est symbolisé par la triple couronne d'épines qui entoure le Sacré-Cœur. Cette destruction des trois concupiscences s'opère par le renoncement. Pas de vie chrétienne sans renoncement. C'est le côté effrayant de la loi chrétienne. Notre nature n'aime pas cela. Le renoncement est pour nous la condition nécessaire pour être unis à Dieu. L'amour de Dieu et l'amour de la bonne chair ou des plaisirs défendus sont incompatibles. De même, l'amour de Dieu et l'amour des biens terrestres pour eux-mêmes sont incompatibles. L'orgueil de la vie et l'amour de Dieu sont incompatibles. Et ce renoncement ne se limite pas aux biens illégitimes qui nous séparent de Dieu, mais aussi aux biens légitimes, biens matériels, spirituels, santé du corps, satisfaction de l'esprit et du cœur, estime, affection d'une famille, pouvoir, réputation, etc. Si nous sommes attachés à ces biens qui sont légitimes, ils deviennent un obstacle à notre union à Dieu. Et si nous n'avons pas le courage d'opérer ce renoncement, de nous en détacher, Dieu peut permettre des épreuves qui nous obligeront à nous en détacher. Nous avons donc tout à gagner à pratiquer cette loi du renoncement qui nous procurera les trésors inestimables du cœur de Jésus. Suivons le conseil de Sainte Marguerite Marie. Si vous voulez vivre tout pour Jésus, c'est ce que nous voulons aller au ciel, nous voulons être unis totalement à lui, nous voulons arriver à la perfection. Alors, il faut faire un sacrifice entier de vous au Sacré-Cœur. C'est ça la parfaite consécration. Il faut un sacrifice entier de nous au Sacré-Cœur. N'agissant que par ses lumières, n'entreprenant rien sans lui demander son conseil et son secours. Lui rendons grâce dans les mauvais succès de nos entreprises comme dans les bonnes, mais demeurant toujours content sans nous troubler de rien. Alors, demandons cette grâce à Notre-Dame, dont le cœur immaculé ne faisait qu'un avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.